intention aujourd'hui, c'est de vous parler des violences collectives, les impacts et les soins, et en montrant quelles sont les intrications entre traumatisme individuel et traumatisme collectif. Alors, je prendrai appui d'abord sur l'actualité. Ces dernières années, nous assistons à ce qu'on appelle une crise migratoire, qui est liée à un ébranlement géopolitique majeur, avec des guerres, des chutes de régimes, des répressions, et ces bouleversements conduisent à la fuite de populations. Et pour prendre un exemple récent sur les 6 derniers mois, en juin 2018, puisque c'est un événement qui a été médiatisé, l'Aquarius, le bateau de l'ONG SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières, qui a secouru 629 migrants, hommes, femmes et enfants, au large de la Libye, a fait route pour Valence en Espagne, où les autorités ont proposé de les accueillir après que l'Italie et Malte leur aient refusé l'accès à leur port. Ces migrants, originaires de Libye ou d'autres pays d'Afrique, ont quitté leur pays pour fuir bien souvent les massacres, les persécutions, la torture, etc. Ils sont partis en prenant un risque. Et d'ailleurs, l'autre jour, il y a eu un chiffre de nombre de morts en Méditerranée qui était assez... Je n'arrive même pas à le retenir tellement il était important. Plus de 36 000, je crois, en plusieurs années. Je ne sais plus exactement. Donc, ils sont partis en prenant un risque, celui d'avoir tout laissé dans leur pays d'origine, après avoir subi des violences souvent extrêmes et de ne pas savoir s'ils pourront arriver, arrimer, dans un pays paisible qui puisse les accueillir. L'histoire récente et plus lointaine dans le monde est largement constituée de ces drames humains. Citons la situation actuelle en Syrie. Le conflit armé en cours depuis 2011 a débuté dans le contexte du printemps arabe. Le régime de Bachar el-Assad a réprimé un mouvement pacifiste et une guerre civile et confessionnelle s'est installée depuis. Le conflit a fait déjà 500 000 morts. Mentionnons également actuellement la persécution et depuis plusieurs années du peuple Rohingya, composé de plus d'un million de personnes en Birmanie qui fuient vers le Bangladesh, pays voisin, pour échapper aux persécutions. À la fin du XXe siècle, d'avril à juillet 1994, un génocide est perpétré au Rwanda par les Hutus sur la population Tutsi, 800 000 morts durant 3 mois. Entre avril 1975 et janvier 1979, les Khmers Rouges, dont le principal dirigeant était Salot Sar, mieux connu sous le nom de Pol Pot, ont été responsables de la mort de 2 millions de personnes sur les 7 millions que comptait le Cambodge. 1939-1945 en Europe, l'Allemagne nazie décide de la solution finale. 6 millions de juifs, hommes, femmes, bébés, enfants, ont été exterminés selon un mode industriel dans les camps de la mort durant 6 années. D'avril 1915 à 1923, 2/3 des Arméniens qui vivaient sur le territoire actuel de la Turquie ont péri du fait des déportations et des massacres planifiés par le parti politique au pouvoir en Turquie à ce moment-là. 1 200 000 personnes ont été assassinées. La liste des massacres, je vais m'arrêter là, mais la liste des massacres, des conflits pourrait s'allonger. Les 20e et 21e siècles sont marqués de guerres, de génocides, mais les siècles précédents ont aussi connu des violences. C'est donc mon propos ici qui interroge les violences collectives ainsi que leurs effets. Quelles sont les répercussions psychiques de ces catastrophes, psychiques et sociales, comme les appellent Puget et K.S., qui font effraction dans un groupe dans lequel chacun des individus qui le composent s'en trouve transformé. Et quels en sont les effets sur la descendance? Donc je tenterai également de distinguer les violences collectives intentionnelles de celles qui ne le sont pas et d'en identifier les impacts. L'OMS définit les violences collectives de la façon suivante. S'il s'agit de l'instrumentalisation de la violence par des gens qui s'identifient en tant que membres d'un groupe, que celui-ci soit transitoire ou ait une identité plus durable, contre un autre groupe ou regroupement d'individus afin de parvenir à des objectifs politiques, économiques ou sociaux. Donc cette définition met en avant la nature de l'événement sans aborder strictement les effets traumatiques produits. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il est question de violence collective, il s'agit d'un ébranlement de l'appareil psychique, individuel, familial, groupal, posant ainsi des conditions favorables au trauma. Alors, partant du trauma individuel, Freud a développé une théorie de l'après-coup selon laquelle le réel vient réactiver les caractéristiques fondamentales du sujet en intrapsychique et dans l'intersubjectivité. Au cours de la cure analytique, on cherche les traces du trauma réel pour se représenter le trauma originaire du sujet. Par la suite, Freud s'est interrogé sur la façon dont le trauma individuel vient s'imbriquer dans le trauma historique. Et fasciné par la puissance inconsciente de la religion, son dernier livre, « L'homme dans l'homme et le monothéisme », Freud articule le trauma individuel au trauma collectif. Et pour citer Sandor Ferenczi, il dit des recherches de Freud, ces recherches psychanalytiques embrassent un domaine immense qui comprend non seulement la vie psychique individuelle, mais aussi la psychologie des masses et l'histoire des civilisations humaines. Ainsi pour Freud, si la dimension intrapsychique est fondamentale, la dimension groupale, c'est-à-dire collective, l'est tout autant. Dans Malaise, dans la civilisation déjà, Freud désignait la culture comme étant un ensemble de réalisations et de régulations qui sert deux niveaux. D'une part, protéger les hommes de la dureté impitoyable de la nature et d'autre part, ajuster les relations des hommes entre eux. La culture correspond aux connaissances et aux comportements qui caractérisent toute société humaine et édifie un cadre qui permet aux humains d'appréhender le monde et de donner un sens aux événements de la vie au travers d'une grille de lecture, de compréhension transmise au travers de rituels, des conduites éducatives, des façons de faire, des modalités intersubjectives. La culture constitue ainsi un socle du collectif qui permet de maintenir un groupe d'humains ensemble. Si le trauma est le mécanisme par lequel un événement traumatique vient bouleverser les défenses d'une personnalité qui le subit, dans la situation du trauma collectif, l'événement traumatique vient de surcroît bouleverser les défenses d'un groupe qui le subit. Ces défenses correspondant aux modalités culturelles de protection du groupe, l'effraction du collectif entraîne alors, par un effet ricochet, une effraction de l'enveloppe familiale et de l'enveloppe individuelle. La famille ayant comme fonction de liaison entre l'extérieur et l'intérieur, par cette rupture traumatique, celle-ci vient remettre en question cette fonction de médiatisation entre l'environnement extérieur et chacun des membres de la famille. Alors, par violence ou traumatisme collectif intentionnel, donc j'y intègre d'emblée la notion de traumatisme par les effets que ces violences induisent, nous entendons tout acte d'agression délibérément induit par des humains ayant pour cible un humain ou souvent un groupe d'humains. Ces traumatismes comportent ainsi une dimension sociale, anthropologique et historique et sont sous-tendus par une stratégie d'attaque du groupe d'humains désignés. Ces stratégies sont pensées en fonction de la connaissance des humains, de leur identité, de leur culture. L'être humain suppose obligatoirement un groupe, puisque on ne peut être un sujet tout seul. Et ça, Winnicott l'avait bien rappelé, un bébé tout seul n'existe pas, un humain tout seul n'existe pas. La dimension originaire, culturelle, ancestrale de tout individu est par essence collective. Cette part collective est aussi la part la plus intime. Ainsi, lorsqu'on s'adresse à un individu, c'est en fait au groupe entier que l'on s'adresse. Les traumatismes collectifs intentionnels consistent ainsi en des attaques du groupe au travers ses rituels, ses façons d'appréhender le monde, ses objets. Attaquer le groupe, c'est avoir comme intention d'attaquer le sujet dans sa dimension collective. Attaquer les sujets d'un même groupe signifie également attaquer le groupe en ayant comme intention, dans le cadre d'un génocide plus spécifiquement, de le détruire, mais également d'en supprimer les objets et leurs traces. Dans beaucoup de guerres, par exemple, le viol est ainsi une stratégie qui a comme intention l'effraction identitaire et transgénérationnelle. Le but du viol est non seulement de produire une frayeur au niveau individuel, mais il a également pour visée l'attaque de la lignée, des rituels d'accueil du nouveau-né et de l'accompagnement à la construction de l'être humain tout au long de son existence. Dans d'autres attaques, notamment génocidaires, arméniens, juifs et tutsis, il s'agit de supprimer toute trace. Citons le rituel de mort qui est présent dans tous les groupes culturels. Toute transgression bouleverse la famille et le groupe dans son ensemble. Tout mort non enterré, sans sépulture, affecte ainsi durablement le groupe et sa descendance. Je prends dans l'exemple du judaïsme. L'enterrement d'un mort est significatif d'un être en devenir. En hébreu, le cimetière se dit Beit Haïm, qui signifie la maison des vies. L'idée sous-jacente est qu'un jour, quand le Messie viendra, les morts se lèveront et il y aura résurrection. Ce passage dans la maison des vies est marqué par la lecture d'une prière qui s'appelle le Kaddish, qui se fait obligatoirement par le groupe, la prière étant réalisée par un minyan, c'est-à-dire un quorum de 10 adultes. Ainsi, on peut comprendre la stratégie des nazis de brûler les cadavres dans les camps d'extermination, à la fois dans un souci d'efficacité et de productivité macabre, mais également dans une attaque spécifique des rituels juifs, puisque le judaïsme proscrit l'incinération, et dans l'intention des nazis, c'est aussi d'en faire disparaître les traces. Les lieux de sépulture n'existant pas, le recueil de survivants sur la tombe s'avère donc impossible. Les manifestations de ces assassinats sont ainsi supprimées. Cette stratégie a ainsi un impact sur la génération survivante, mais au-delà de l'impact de ces attaques au niveau de la génération qui les subit, ces traumatismes collectifs intentionnels ont des effets dévastateurs sur la descendance. Alors, quelles en sont les répercussions psychologiques ? Ces traumatismes provoquent de l'effroi et une suspension d'un mouvement de vie en scindant la vie d'avant d'après. Cette rupture de temporalité s'effectue sur le mode de l'effraction des différentes enveloppes collectives, familiales, individuelles. La dimension collective du traumatisme infligé conduit alors à des effondrements des différents étayages de l'identité du moi et du groupe, un ébranlement des socles narcissiques et identitaires qui assuraient jusque-là la possibilité et la continuité de toute liaison. Ces bouleversements équivalent à des ruptures des cadres culturels externes ou des garants culturels, sociétaux et métapsychiques. Dans le cas de traumas massifs collectifs tels que la Shoah, on parle du syndrome du survivant. C'est en 1971 que Crystal et Niederland l'ont décrit en le désignant comme un ensemble de symptômes qui recouvre des manifestations traumatiques pendant les persécutions et des conséquences psychopathologiques à long terme. Il s'agit d'anxiété chronique, de dépression, de culpabilité, se manifestant notamment dans les cauchemars, une tendance à l'isolement et au retrait, à des symptômes psychosomatiques, d'agressivité, des troubles affectifs et cognitifs. Ces traumas sont tels que dans la majorité des cas, ils n'ont pas été traités, et laissent des traces à la façon de fantômes qui continuent à rôder dans l'après-coup. C'est ce que Abraham et Torok ont désigné par des notions de crypte. Transmettre le non-dit à son insu constitue alors un facteur de risque psychopathologique. Le symbolique n'advenant pas, ce sont les mots M-A-U-X qui prennent le dessus. Ces deux auteurs évoquent trois processus ayant cours ainsi sur trois générations. Le premier concerne l'indicible qui conduit à un clivage chez le sujet traumatisé porteur de la crypte. Le second correspond à l'innommable, à la génération suivante pour laquelle l'événement ne fait l'objet d'aucune représentation verbale et dont seule l'existence de l'événement est présente. Le troisième est l'impensable. À la génération suivante, le fantôme poursuit son travail de déliaison et continue à s'enquister dans le psychisme familial et individuel. On identifie aux générations suivantes des troubles psychiques qui s'apparentent à ceux des survivants, dépression, anxiété, angoisse, cauchemar, troubles psychosomatiques. Les enfants sont les premiers à être propulsés dans la proximité avec l'étrangeté du parent, même silencieuse. Dans cette interface, ils manifestent des symptômes souvent éloquents. Et comme en témoigne Lionel Bailly, qui est psychiatre et psychanalyste d'enfants, quand les enfants entendent la voix des morts, c'est surtout la voix de ceux qui sont morts sans sépulture, sans cérémonie. cette brève hallucination pourra cesser dès qu'elle sera entendue par un thérapeute chez qui la voix des morts peut résonner au lieu de rester lettre morte. Si elle ne trouve aucun écho, dit-il, le germe de la psychose est là. Les violences non intentionnelles, pour les distinguer des violences intentionnelles, sont celles qui surviennent sans qu'elles n'aient été préméditées par un humain ou un groupe d'humains. Il s'agit généralement de catastrophes naturelles ou industrielles telles que les tremblements de terre, des tsunamis, inondations, explosions de centrales nucléaires. Dans ces situations, le collectif est atteint. Désastre, disparition de ce qui faisait le familier, maison, objet, proche. Ces traumatismes collectifs désorganisent le système, l'attaque dans son fonctionnement de groupe. Celui-ci ne peut plus fonctionner de façon habituelle, semblant ramener le corps social à un fonctionnement archaïque et primaire, bien loin de sa réalité ordinaire et de ses habitus. En outre, ce qui différencie fondamentalement les violences intentionnelles des violences non intentionnelles réside dans le fait que dans la deuxième situation, l'identité du sujet est sauve. Et c'est à partir de cette préservation de l'identité que le travail thérapeutique pourra s'effectuer. Lors d'une catastrophe naturelle, l'environnement social réagit, met tout en œuvre pour aider à retrouver les cadavres, à les enterrer, à reconstruire. Le soutien humain est à l'œuvre, car la reconnaissance du drame est évidente et immédiate. Face à la nature, l'homme s'y soumet et ne peut que la reconnaître. Ces traumatismes non intentionnels peuvent néanmoins parfois s'intriquer dans des traumatismes intentionnels et anciens, venant ainsi les réveiller dans un après-coup. Par exemple, le séisme qui a secoué Haïti le 12 janvier 2010 a mis à jour et révélé la violence de l'histoire du pays depuis la déportation des esclaves d'Afrique pour cette île. Daniel de Rivoy propose ainsi un modèle clinique basé à partir d'une intrication de l'individuel et du collectif dans sa dimension la plus large en considérant l'intrapsychique, le géopolitique et l'épistémologie. Alors, quelle thérapeutique, quels soins à apporter à ces patients traumatisés ? Dans le soin apporté aux patients survivants de catastrophes psychiques et sociales, il semble alors fondamental de considérer la dimension collective de ces violences. En ce qui concerne l'histoire des peuples et de la psychologie humaine, il y a nécessité à considérer l'impact de la culture, mais aussi de l'histoire collective sur l'histoire individuelle. Car l'être humain est déterminé par une série de facteurs individuels et collectifs. Événements liés à l'histoire de la famille, l'enfance, expérience de vie, impact de la société, de l'éducation, de la culture et de l'histoire collective. La psychologie clinique se doit ainsi d'investiguer l'impact du collectif, car la pathologie est bien souvent la manifestation individuelle d'un événement collectif dont l'origine peut être très ancienne. Dans le cas des violences collectives intentionnelles, les patients présentent une souffrance en lien avec les actes délibérés, et je cite François Cironi, de modification psychologique des êtres humains. Dans ces violences délibérément induites, l'identité étant diffractée, François Cironi propose dans une approche thérapeutique d'identifier les intentions et les stratégies détorsionnaires et de les déconstruire avec le patient. Le thérapeute essaiera de trouver avec le patient comment comprendre l'expérience vécue par le survivant ou perçue, s'il s'agit de la descendance, non pas du point de vue subjectif, mais du point de vue de ce que l'agresseur recherchait dans les méthodes d'attaque et où de torture utilisée. Dans le suivi thérapeutique, il s'agit de convoquer l'histoire des faits, celle qui a eu un tel impact sur la vie du patient. En analysant les mécanismes intentionnels sous-jacents, les patients peuvent se libérer progressivement de leur souffrance, permettant ainsi de travailler à une reconfiguration identitaire que le moi n'était plus en capacité de faire jusqu'alors. Dans ces situations extrêmes, il y a aussi la position de bienveillante neutralité qui ne peut plus être tenue face à la massivité des blessures de l'histoire. Et là, à ce propos, Davoine et Godillière vont plus loin et soutiennent que dans les espaces catastrophiques, la neutralité contrevient à l'éthique. Et je les cite, « Dans les cas d'expériences humaines extrêmes, la rage ou l'apathie sont aussi le jeu du langage. » Cependant, penser les blessures dans cette unique intersubjectivité entre thérapeute et patient semble insuffisant si on n'y intègre pas une dimension politique. En effet, le travail avec les patients traumatisés, d'autant plus complexe aujourd'hui, si je reviens à mes propos d'introduction, que leurs traumatismes sont renforcés par la réalité de la procédure d'asile actuelle. Et pour conclure, en revenant sur mes propos dits en introduction, au sujet de ceux qui sont concernés par ce qu'on nomme la crise migratoire et qui, exposés à des violences collectives, tentent de venir en Europe, et comme il s'agit d'une table ronde pluridisciplinaire, je veux faire référence au philosophe Étienne Balibar, et mes collègues de droit sont sûrement de philosophie, les philosophes et de droit seront très intéressés par son propos si vous ne l'avez pas lu, qui, dans un article paru dans le journal Le Monde le 20 août 2018, donc dernier, propose un droit international à l'hospitalité. Il s'agirait d'un droit fondamental imposant ses obligations aux États dont la portée soit au moins égale à celle des grandes proclamations de l'après-guerre. Tout d'abord, Balibar qualifie d'errants, il préfère le mot d'errants, ceux que l'on pourrait nommer migrants ou réfugiés. C'est-à-dire qu'il souligne que ces nominations de migrants ou de réfugiés dépendent du type de droits qui leur seront reconnus et la façon dont qualifie le fait de les en priver. Balibar préfère ainsi parler d'errant, ainsi d'errance migratoire. Donc, pour reprendre son principe d'hospitalité, serait que les errants et ceux qui leur portent secours peuvent obliger l'État souverain lui-même de façon que leur dignité, leur sécurité ne soient pas, comme aujourd'hui, systématiquement foulées aux pieds. L'idée serait ainsi que les étrangers ne doivent pas être traités en ennemis. Ils sont, je cite Étienne Balibar, hein, parce que je trouve son papier magnifique, « ils sont une part mobile de l'humanité suspendue entre la violence d'un déracinement et celle d'une répression. Ce n'est qu'une partie de la population mondiale, mais hautement représentative de ce que Jacques Rancière, autre philosophe, a appelé la part des sans-parts, c'est-à-dire le manque de droits qu'il faut combler pour que humanité rime avec égalité. » Il s'agit de savoir si l'humanité expulse de son sein cette partie d'elle-même ou si elle en intègre les exigences à son ordre politique et à son système de valeurs. C'est un choix de civilisation. Ainsi, il me semble que dans la clinique, auprès de patients traumatisés, pour la plupart exposés à des violences collectives, nous sommes, nous, cliniciens, contraints, semble-t-il, d'y intégrer des dimensions politiques et philosophiques. Je vous remercie.